de ses observations sur la danse parmi certains peuplades semi-primitives d'Amérique du Sud, dit « D'habitude, les hommes et les femmes se séparent lors de danse. Et le rapprochement physique des partenaires, coutumé chez les Européens, n'a donc jamais lieu. » Un autre savant écrit à propos de l'Inde « Rien de comparable aux salles de bal du monde occidental n'existe ici. Les danses par couple affectent profondément l'idée de propriété chez chacun. J'ai moi-même assisté à des danses non rituelles chez des tribus africaines très reculées. Jamais un homme n'aurait osé enlacer une femme ou une jeune fille. Il aurait été chassé du village, à jamais. Ces danses duraient parfois sans discontinuer, plusieurs jours, plusieurs nuits, et malgré l'état d'ivresse très avancé d'hommes et de femmes, jamais cette règle n'était violée. Aussi étrange que cela puisse paraître, les danses modernes sont choquantes aux yeux des peuples prétendument sauvages. Le fait est qu'ils ressentent d'emblée que la danse possède une sorte de puissance résultant de la passion humaine et sert de prélude à un contact sensuel plus prononcé qui va finir par déboucher tôt ou tard sur l'acte final. Nous parlons en quelque sorte d'émotions ressenties auxquelles Dieu désire que nous ne soyons sujets que dans les liens du mariage et non au cours d'événements ayant pour résultat direct de nous abaisser, d'affaiblir notre résistance et notre caractère et qui, dans certains cas, peuvent introduire la ruine tragique de notre vie. Tout ceci signifie que même si le mot « danse », au sens où nous l'entendons aujourd'hui, ne se trouve pas dans le Nouveau Testament, l'idée de ce qu'il représente y est mentionnée et condamnée. Galates, chapitre 5, verset 19, en donne un résumé assez précis. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Or, nous avons amplement démontré que les émotions ressenties lors de l'exercice de la danse aboutissent à ces trois choses. Peut-on parler ici de degrés à respecter ou à admettre? Absolument pas. Il existe des degrés divers, car il s'agit d'intensité d'absorption dans l'alcool. Il n'en va pas de même avec la danse. Les intensités sont toutes les mêmes, et aucune ne peut être pratiquée sans danger et tout en plaisant à Dieu. Il y a des degrés d'adultère, mais tous sont péchés, alors que pour le chrétien, il ne peut en exister aucun. Tout cela fait partie des œuvres de la chair. L'apôtre Paul, après les avoir décrits comme étant, entre autres, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, ajoute une chose terrible. Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Qui peut garantir qu'en dansant, on ne s'expose pas à des émotions ou à ces trois choses, se trouvant même sans le vouloir intimement liées? Le chrétien, lorsqu'il se laisse guider par l'Esprit Saint, est amené à produire les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, selon Galates chapitre 5 et verset 22. Voilà qui trace une ligne entre les fruits de l'esprit et les œuvres de la chair. Où trouve-t-on les premiers? Sur la piste de danse? Mais, direz-vous, qu'est-ce qui vous permet de conclure qu'un chrétien ne devrait pas danser? Plusieurs raisons, dont voici les principales. Danser, premièrement, c'est risqué. Les dangers auxquels on est exposé dépendent en majeure partie du milieu dans lequel vous évoluez, des relations que vous entretenez avec ces garçons ou ces filles. Certaines choses, parfois très mauvaises, peuvent vous arriver. Il est vrai que tous les effets dangereux de la danse ne vont pas fondre sur chacun de ceux qui posent le pied sur la piste. Cependant, chacun de ceux qui dansent va faire face à l'idée qu'un jour ou l'autre, ça va lui arriver. Deuxièmement, danser peut vous placer en mauvaise compagnie. Nombre de dancing servent de repère à des gens moralement peu recommandables. Remarquez que lorsqu'une danse ou un surboom est organisé en dehors du dancing proprement dit, que ceux dont les qualités morales se situent à un assez haut niveau sont toujours absents, ce qui n'est pas le cas pour les autres. Les nouveaux amis qu'on rencontre au cours d'une danse sont rarement de l'espèce qui vous aidera à devenir un chrétien aguerri. La simple logique nous fait admettre que la danse risque de nous mettre en contact avec des gens dont le côtoiement ne nous apportera rien, sinon la tentation. L'apôtre Paul le dit bien, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Troisièmement, danser peut conduire à la boisson, et nous le savons tous. Qui dit danse, dit boisson, bière, champagne, alcool de toutes sortes. La question se pose, où puis-je danser sans être soumis à cette tentation supplémentaire? La danse et la boisson sont étroitement liées, et il faut admettre que la danse peut mener à la boisson. Quatrièmement, danser, après un certain laps de temps, peut conduire vers une vie immorale. Comme nous l'avons déjà vu, la danse vous met en contact avec des gens que vous ne fréquenteriez probablement pas ailleurs. Le danger de la boisson est présent. Il ne faut donc pas s'étonner de voir certains jeunes et moins jeunes y prendre un vif plaisir. Ne pouvoir s'arrêter, glisser vers d'autres passions accomplies une fois le bal terminé. Une série d'études menées en profondeur par un groupe de sociologues démontre qu'entre 70 et 80% de femmes tombées dans la plus basse des immoralités avouent que le dancing a constitué le début de leur chute. Un observateur honnête peut donc aisément s'apercevoir que la danse peut entraîner n'importe qui sur le chemin du péché. Mais, objecteront certains, de nombreux jeunes gens et jeunes filles peuvent danser sans jamais tomber dans ces traquenards. Entièrement d'accord avec vous. Tous ceux qui dansent ne deviendront pas nécessairement des fornicateurs, parents d'enfants illégitimes, alcooliques ou prostitués. Toutefois, les faits prouvent de même que les ennuis, le nombre de ceux qui ont dévié du chemin établi, ont eu pour origine la piste de danse. La danse doit accepter ses vies détruites comme autant de ses fruits. Et celui ou celle qui a commencé ou continue à danser doit reconnaître que tels en sont les dangers. Ils ne peuvent pas se dire sans cesse, oh, cela va arriver aux autres, mais jamais à moi. Cinquièmement, danser peut affaiblir quelqu'un spirituellement. Avez-vous jamais vu la danse rendre un chrétien plus fort spirituellement, ou bien au contraire? Combien sont ceux qui ont commencé par venir moins souvent aux réunions de l'Église pour finalement cesser toute activité dans les assemblées, et cela suite à leur subit enjouement pour la salle de bal. Bien souvent, il arrive qu'à cause de la danse, les jeunes commencent à refuser les conseils des parents et des prédicateurs. Chaque fois que quelqu'un se refuse à écouter les avertissements des personnes sages et expérimentées de l'Église à propos des distractions douteuses, sa foi devient plus faible. Les risques sont vraiment trop grands et pourraient vous atteindre. Il est vraiment difficile de croire qu'on puisse se mettre à danser sans presque aussitôt goûter à ses fruits amers. Lorsque l'on fait une comparaison entre les bénéfices, les joies qu'apporte la danse et les risques sérieux et éternels de sa pratique, on doit très vite s'apercevoir que le jeu n'en vaut vraiment pas la chandelle. C'est jouer à la roulette russe. Les chances sont beaucoup trop minimes. Le christianisme n'a jamais, malgré la liberté qu'il offre à chaque être, constitué une autorisation de faire le mal. Pierre écrit, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Si quelqu'un se réclamant du christianisme se met à faire le mal, ce mal ne se transformera pas en bien simplement parce qu'il est chrétien. Rien n'est plus incongru, plus choquant que de voir un chrétien faire ce que le monde même sait qu'il ne devrait jamais faire. N'est-il pas tragique de constater que les gens de l'extérieur ont parfois une conception bien plus haute, bien plus saine du christianisme que certains chrétiens eux-mêmes? Si vous objectez en disant que vous ne trouvez rien de mal à la danse et que jamais vous n'êtes troublé en dansant par des idées contraires à la doctrine de Christ, que pensez-vous alors de l'influence que vous pouvez avoir sur d'autres par votre attitude? Pensez-vous en toute honnêteté que vous pouvez représenter le christianisme d'une manière effective dans le monde qui vous entoure en encourageant et en pratiquant ce que tant de personnes objectives et respectueuses de la volonté de Dieu ont condamné durant tant de siècles? arriverez-vous à impressionner ceux qui ont besoin d'être sauvés en vous conduisant comme l'un d'entre eux? Nous devons tous sonder notre cœur à un moment ou l'autre de notre vie. Et le test suivant va vous aider à voir plus clair en vous-même à propos de la danse. La danse m'incite-t-elle à avoir des pensées et des désirs contraires à la volonté de Dieu? Provoque-t-elle les mêmes pensées dans l'esprit de mon ou de ma partenaire? Jésus m'accompagnerait-il au bal si j'avais l'occasion de le lui demander en personne? La danse suscite-t-elle en moi des émotions qui, selon Dieu, ne devraient naître en moi que dans le lien du mariage? La danse me sert-elle de tremplin afin de m'élever toujours davantage vers Dieu? Accroît-elle le respect que certaines personnes bien-pensantes ont pour moi? Ma participation à la danse fait-elle naître en moi un amour toujours grandissant pour Dieu? M'aide-t-elle à mieux apprécier et à augmenter mes lectures de la Bible? La danse augmente-t-elle mon zèle à répandre l'évangile de Christ? Me fait-elle prier davantage et avec bien plus de sincérité? Puis-je dire en toute honnêteté que danser